Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 27 septembre. On vous retrouve avec plaisir, Dominique et Françoise à la lecture et Alex et Margot à la technique. La semaine dernière, nous n'avons pas eu d'émission, justement en raison de problèmes techniques. Donc on espère que désormais tout va rouler tranquillement et on est bien content d'être là. C'est dommage, oui, que je ne vous ai pas parlé la semaine dernière, car il y avait une actualité culturelle débordante dans notre bonne ville. Loin de l'avenue du Pape, effectivement, mais liée au long week-end de l'EHESS et à celui de correspondance à Manosque. Alors, pour l'année prochaine, pensez-y, les colloques de l'EHESS, c'est l'École des hautes études en sciences sociales, sont passionnants et à Manosque, les rencontres littéraires ouvrent les portes de l'évasion, effectivement, par la lecture de l'actualité qui se situe à la rentrée. La seule difficulté, finalement, c'est de choisir Marseille-Manosque, Manosque-Marseille, et puis encore plein de choses à Marseille, bien sûr. Restent nos lieux préférés, habituels, avec les cinémas, par exemple. Nous sommes absolument désolés d'avoir appris la fermeture du César, mais nous gardons nos petits chouchous, hein, qui sont le Gyptis, la Baleine, l'Alhambra, et nous attirons votre attention en particulier, là, cette semaine, sur les films en réédition. Les cinémathèques font un travail de restauration des films anciens absolument fabuleux. Et ça nous permet de voir ces films du patrimoine avec une qualité d'image surprenante. Par exemple, lundi avant-hier, nous avons vu à l'Alhambra Les Chemins de l'Espérance de Pietro Germi, d'une actualité criante puisqu'il s'agit pour de pauvres gens d'aller trouver du travail ailleurs, de s'exiler et de cheminer en effet sur les routes pour aller chercher du travail. Nous avons vu donc Les Chemins de l'Espérance dans une restauration absolument somptueuse. Et ce film passe encore vendredi et lundi de la semaine prochaine. Donc profitez des ans et des restaurations, des films anciens restaurés, il y en a encore bien d'autres. Ces films anciens restaurés, ce sont souvent de vraies pépites. Donc quand vous les voyez, ne les ratez pas. Et en parlant de pépites, de richesses, de pépettes même, comme on dit familièrement, revenons à notre livre du jour. Il y a deux semaines, on vous avait lu « Histoire d'un ogre » sur les agissements dévorants de Vincent Bolloré. Eh bien, cette semaine, on vous montre quelques images de deux milliardaires, non français cette fois-ci, mais tout de même, qui agissent beaucoup dans l'Hexagone, qui agissent toujours avec dans leurs mains le grand capital, le grand capital international, bien sûr, Albert Frère, qui est belge, et Paul Desmarais, qui est québécois. Alors, notre belge et notre québécois, j'imiterai pas leurs accents, mais il paraît qu'ils sont pas piqués des vers. Notre belge et notre québécois, donc, sont des grands, comment on dit, vampires, en tout cas prédateurs, d'après le titre. Prédateurs donc du grand capitalisme international. Alors les auteurs du livre les appellent les prédateurs, ils ont bien raison, et dans l'un des chapitres ils les appellent aussi les loups. Donc vous voyez, le message est clair, hein, les ogres, les loups, les prédateurs, ben, on voit tout de suite à qui on a affaire. Et commençons avec une belle citation de Paul Nizan, une citation tirée de Chiens de garde, enfin Les Chiens de garde, qui montre bien la collusion, c'est ce qui va nous intéresser ici, entre milieu d'affaires et politique. Nizan, il écrivait ça en 1932, hein, comme quoi, manifestement, un siècle avant, un siècle après, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La bourgeoisie devine que son pouvoir matériel exige le soutien d'un pouvoir d'opinion. Ne subsistant en effet que par le consentement général, elle doit inlassablement donner à ceux qu'elle domine des raisons valides d'accepter son établissement, son règne et sa durée. Elle doit faire la preuve que son confort et sa domination, et ses maisons et ses dividendes, sont le salaire que la société humaine lui consent en échange des services qu'elle rend. Le bourgeois mérite d'être tout ce qu'il est, de faire tout ce qu'il fait, parce qu'il entraîne l'humanité vers son plus haut, vers son plus noble destin. Alors, évidemment, Nizan, il disait ça en riant, enfin en riant jaune, bien sûr. Mais il avait bien raison de dire que cette fameuse bourgeoisie et ces fameux capitalistes ne peuvent se maintenir au pouvoir qu'en nous bourrant la tête. Alors, nous bourrant la tête, bah oui, on en avait parlé avec Bolloré et on va continuer aujourd'hui. Puisque, avec notre livre Les Prédateurs, eh bien, en fait, il s'agit de l'enquête menée par deux journalistes qui dénoncent les agissements des ultra-capitalistes ultra-libéraux et que, bien sûr, en passant, eh bien, on parle aussi des médias. Mais on va beaucoup parler tout à l'heure d'énergie. Vous verrez, ça commence en Belgique. Le Belge, on l'a déjà dit, c'est Albert Frère. Ça se poursuit au Canada. Le Canadien, c'est Paul Desmarais. Donc, vous allez entendre que quelquefois, les journalistes les appellent juste par leur prénom. Et ces petits gens du petit monde, là, ou plutôt ces grands gens du grand monde, on va essayer, ou les journalistes vont débusquer leur turpitude en commençant effectivement par Albert Frère, le Belge. C'est un député d'opposition en Belgique à qui il commence à demander des explications.
Le député s'appelle Marco Van Hees. Les deux journalistes n'ont pas de nom. Ils ressemblent aux auteurs de ce livre. Un gars, une fille ou l'inverse, une fille, un gars. Si le député barbu est insoumis au diktat des multinationales, en Belgique, insoumis.
Oui, en Belgique,
est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
C'est juste qu'ils sont insoumis.
Un bon produit pour JT, le porte-parole d'une Wallonie en lutte, la gloire de sa région, un des hommes politiques les plus populaires de Belgique, il sait qu'il le doit à son richissime voisin. Depuis qu'il est petit, l'ombre du grand homme occupe ses pensées, obstrue son horizon, celui de ses parents et de ses amis, qui tous ont un jour travaillé dans les laminoirs, les magasins, les forges, la banque, les journaux, les brasseries ou les coqueries lui appartenant. Cela fait 50 ans que les Carolo, on appelle ainsi les habitants de la région de Charleroi, se font balader par Albert Frère et que Marco Van Hees le traque, le critique, publie des articles incendiaires sur lui dans la revue Parti du Travail de Belgique, PTB, ou sur son blog. Pourtant, quand il évoque son nom, son regard perd en intensité, comme s'il avait intégré l'idée que même très vieux, légèrement voûté et marchant avec une canne, Albert Frère gagnait toujours la partie à la fin, un peu comme l'Allemagne au foot.
Oui, enfin l'Allemagne de 2018.
Enfin, gagner la partie en Belgique, comme partout dans le monde, constitue à s'en mettre plein les fouilles quand arrive l'heure du bilan. Et à sourire aux photographes. Albert Frère est une sorte de champion du monde, toute catégorie de la combine et du cash flow. Jésus de Nazareth multipliait les pains, Albert de Gerpine se contente des coffres forts. Dans les affaires en Belgique, quoi que tu fasses, c'est toujours Albert Frère qui emporte la mise et qui te ferme la porte au nez.
Eh oui, Albert Frère, donc, c'est notre premier milliardaire dont on va continuer à s'occuper maintenant. Les journalistes racontent avoir découvert Albert Frère en 2007, au soir de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Frère n'était alors qu'un nom sur une liste de 57 invités au Fouquet's pour célébrer la victoire du nouveau président français. Le vieil Albert s'était retrouvé dans le restaurant Bling Bling parisien avec son ami Paul Desmarais, qui est lui le magnat de l'économie canadienne. Et il s'était mis un peu à l'écart des vedettes du showbiz et de leur ami Nicolas pour discuter de cet ami, en effet. On pourrait dire leur poulain, disent nos journalistes. Albert et Paul, en effet, ont le nez fin. Albert et Paul, Paul et Albert. Comme si la génétique et les lois du business avaient créé deux clones de chaque côté de l'Atlantique. Un vendeur de clous, un vendeur de bus. Frère et Desmarais. Deux figures de proue, deux caricatures d'un capitalisme si sauvage qu'il en devient fascinant. même si physiquement ils ne se ressemblent pas, parce que le Canadien a quand même un look élancé de crooner et plus de prestance que le Belge trapu, taillé comme un paysan du Hainaut. Leur discours et leur vision du monde en font des Siamois. Tous deux sont partis d'une entreprise familiale en grande difficulté. Tous deux en ont bavé, jeunes, pour sortir de leurs conditions de petits patrons snobés par leur père, l'aristocratie et les banquiers. Tous deux ont de la mémoire et une propension certaine à la vengeance. Tous deux sont d'abord des vendeurs. Des vendeurs de tout et de n'importe quoi. Des stratèges, capables de préparer leurs coups des années à l'avance. Capables surtout de jouer à l'instinct. Tous deux ont usé et abusé de l'argent public pour monter leur business. Tous deux sont ultra-libéraux. Le marché, rien que le marché. Eh ben oui, des vrais ogres, quoi. Et d'ailleurs, on ne vous a pas dit que le sous-titre de « Les prédateurs », c'est « Des milliardaires contre les États, leur rapacité face à nos lâchetés ». Eh oui, le message des auteurs, c'est que pour faire des sous, les banquiers s'appuie bien sûr sur les États, mais que finalement, les États, quand ils sont de droite et qu'ils soutiennent les banquiers, s'appuient sur, entre guillemets, la lâcheté des contribuables. Enfin bon, moi je veux bien, je suis prête à me lever, me révolter comme contribuable, mais il va falloir que je trouve un parti pour ça. Les deux complices, ils sont entrés dans le club des leaders de la Sarkozy naissante en 2007. C'était un honneur et une incongruité, en même temps. Albert et Paul auraient sans doute préféré siroter un Pétrus, un château Pétrus bien sûr, en s'envoyant une côte de bœuf dans la salle à manger de Gerpine, là, dans le Hainaut, chez Albert, plutôt que de jouer les doublures avec ce champagne de nouveau riche aux Fouquet's. Mais enfin, bon, les affaires sont les affaires. Et on ne peut pas se retirer du crâne que ce soir-là, ils avaient tous en tête, eux et les autres, les gros coups qu'ils allaient pouvoir réaliser grâce à leur ami, le nouveau président. Tout était en place pour réussir une magnifique culbute. Tu mets 10 dollars dans la machine, tu claques des doigts et tu en empoches 100. L'opération marche encore mieux avec des millions d'euros. Tu mets 100 millions d'euros dans un géant de l'énergie, tu claques des doigts et tu empoches 1 milliard. Oui, en fait, dans le cadre du livre, là, il s'agit de démontrer comment Albert et Paul ont mis la main sur Suez Gaz de France, qui est donc devenu Engie. L'énergie, c'est la clé du paradis pour les nouveaux riches. Avec la téléphonie et l'électricité, le gaz et le pétrole restent les vaches à lait des démocraties occidentales. Frères et Desmarais ont mis un pied dans Suez. Le groupe franco-belge est énorme, mais endetté. L'objectif, avec l'arrivée du président étalonnette, serait de s'offrir Gaz de France. Le fleuron national, celui que la gauche et les syndicats ne veulent pas privatiser. Celui qui permet une relative équité devant le chauffage et diffuse de la chaleur aux pauvres. Actionnaires de Total, Albert et Paul lorgnent aussi sur Areva, le géant nucléaire français. Ils sondent, ils prospectent. Être milliardaire, quand on veut venir à ce rang-là, ça demande du flair et une bonne réactivité. Alors, les journalistes continuent leur enquête pour leur histoire de privatisation de Gaz de France, dans laquelle Paul et Albert avaient trempé 10 ans plus tôt. Les médias avaient en fait assez peu évoqué leur rôle au moment de la fusion entre Suez et GDF. Cette captation d'un service public était emblématique des dérives à venir du capitalisme. C'était leur point de départ. Pourquoi un organisme public avait-il acheté une chaîne de hamburgers ? Comment les deux milliardaires s'y étaient-ils pris pour devenir les premiers actionnaires de Suez ? Et pourquoi l'État français les avait-il laissés faire ? Eh bien, en fait, le but du livre, c'est ça. C'est donc de l'achat et de la revente de Quick à l'achat et à la mainmise sur Suez, EDF et donc Engie. Alors, nos deux milliardaires, ça fait une vingtaine d'années que régulièrement, ils essayaient de voir quelle était la faiblesse des États face au pouvoir grandissant des multinationales. Ils ont lancé des invectives et ils se sont aperçus que, finalement, la perte d'autonomie des uns par rapport aux autres, enfin, de la politique vis-à-vis de l'économie, était inéluctable. Et avec l'histoire de Albert Frère et de Paul Desmarais, les journalistes sentent bien que, finalement, là, c'est bien l'exemple frappant de l'histoire. Ça peut permettre de comprendre comment, collectivement, on se fait toujours tout savoir. Car, avec nos autres amis milliardaires, les deux hommes ont largement participé à la création d'une fable politique. De nouvelles divinités ont été érigées. Le marché, la concurrence, le libre-échange, la finance, l'optimisation fiscale, bien sûr. Un corpus de lois a envahi l'espace politique, et nous a contaminés. L'histoire tricotée par les deux milliardaires et leurs communicants, afin de vendre aux médias la grandeur et la spontanéité de leur épopée, est une fiction. La réalité du terrain renvoie à une saga plus dure, plus violente, moins glorieuse. La résistance des hommes, dans les sociétés auxquelles ont touché Frère et Desmarais, a en permanence été éprouvée. La performance, la flexibilité, l'austérité. Le combat a été féroce, les victimes nombreuses. Les milliardaires avaient un avantage pour eux, le rachat des médias mainstream par eux-mêmes et par d'autres amis milliardaires. Le dieu marché a ainsi imposé sa loi sur la planète. Les souffrances ? Quelles souffrances ? Les sacrifices ? Quels sacrifices ? Albert et Paul sont des apôtres consciencieux du capitalisme financier, des figures tutélaires qu'on retrouve dans bien des cas. Par exemple, une vidéo circule sur Internet où l'on voit notre député d'opposition, Marco Von Hess, faire la visite de villa pour milliardaires qui se situe à Uccle, une ville frontière belge très protégée. Bernard Arnault s'y est installé en 2011 et de nombreuses familles de milliardaires français y vivent, comme les Tétinger, les Muliez, les Darty. Ah oui, vous savez, Muliez, c'est Auchan. Et de nombreux milliardaires belges aussi. On y voit des députés qui s'arrêtent, devant les maisons des milliardaires. Alors, ils entrent, ils vont boire un verre. Bien sûr, c'est un signe de réussite d'arriver à loger à Uccle. Et la proximité ostentatoire entre ministres et milliardaires trouble. N'importe quel citoyen est en droit de se demander comment un élu peut se payer une bicoque à tourelles de ce genre avec des grilles nouveaux riches et gazon impeccable. C'est un peu comme les parcs de Saint-Tropez, vous savez, 150 villas sécurisées avec vigile et piscine. Ah oui, il y a Yeltsin, enfin la famille d'Yeltsin aussi qui habite là. Et vue imprenable sur le golfe. Les foules estivales passent souvent, mais à côté de cet espace protégé, totalement interdit aux piétons. Par contre, on y croise Vincent Bolloré, son beau-frère Gérard Longuet, on y croise aussi François Pinault, Bernard Arnault, et puis justement, Albert Frère et Paul Desmarais, et puis Nicolas Sarkozy aussi, qui vient en vélo du Cap Nègre tout proche. Et tous, ils aiment se retrouver entre eux l'été, dans cet écrin de luxe qu'ont découvert les pinceaux Charlot au cours de leurs enquêtes. Ben oui, bien sûr, les pinceaux Charlot, vous vous souvenez, on les connaissait, c'était ceux qui dénonçaient les ultra-riches. Et là, les ultra-riches, on les retrouve à la frontière franco-belge, à Uccle, comme on les avait retrouvés à Saint-Tropez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben oui, ils ont décidé de devenir riches, de plus en plus riches. En fait, c'est ça, c'est bien ça l'histoire. Devenir de plus en plus riches et préserver leur caste ou la faire prospérer. Caste, il s'agit bien d'une caste. François Hollande, en campagne présidentielle, avait dénoncé les travers d'une finance sans visage. L'image avait le défaut d'entretenir un mythe, celui d'une entité immatérielle contre laquelle on ne peut rien. Mais la finance a pourtant des visages, des corps, des noms, des villas, des propriétés, des yachts, des bijoux, des entreprises, des comptes numérotés, des conseillers, des limousines et des jets privés. Elle aime le bon vin, les plats raffinés, les œuvres d'art, les fêtes, les costumes sur mesure, les villas, les châteaux, les vignobles. Jusque dans les années 2000, La richesse appréciait la discrétion. Les réseaux, l'entre-soi, les services rendus, les opérations secrètes. Les montages financiers restaient opaques. Depuis une vingtaine d'années, les fortunes grossissant, l'envie de se montrer n'est plus réfrénée. Exhiber sa fortune peut présenter certains avantages. Et dans les fêtes clinquantes, on se montre, on se vautre, on se désinhibe. On peut identifier, quand on est journaliste, des hommes et des patrimoines. Alors, c'est bien ce qu'on va faire. On va suivre nos journalistes. On va les suivre avec un chapitre qu'ils appellent précisément les arnaqueurs. C'est exactement la corrélation de l'ultracapitalisme bling-bling et d'une collusion entre l'économie et la politique. En fait, les hommes de ce livre, on l'a vu, sont des prédateurs. Et puis, ils sont aussi des arnaqueurs parce qu'ils sont arnaqueurs pour être prédateurs. Le livre démontre ici un certain nombre de coups réalisés par Albert Frère et Paul Desmarais. On ne va pas tous vous les expliquer en détail. Mais bien sûr, Albert et Paul, Paul et Albert, ne reculent devant rien pour arrondir la galette. Et ce mot de galette, il est amusant parce que, en fait, il existe en français, bien sûr. Il existe aussi dans le patois wallon. On va le retrouver là, dans le paragraphe qui suit. On en vient à notre histoire d'Albert Frère dans le patois wallon. Je la retrouve plus. C'était pourtant amusant. J'aimerais bien vous la retrouver. Pourquoi je ne retrouve pas le patois wallon de Albert Frère ? Ah ben si, ça y est, je l'ai. Alors, Albert Frère, il a d'abord un conflit social dans la sidérurgie, une usine de sidérurgie qu'il possède encore, dont il va rapidement se débarrasser parce que c'est vraiment plus rentable. Enfin, il a un conflit avec les syndicats, bien sûr, et avec son sens très particulier des affaires, il a décidé de ne jamais céder. Il déteste qu'on lui résiste, qu'on lui force la main. Ceux qu'il connaisse avancent que quand il prend une décision, rien ne peut l'arrêter. Qu'il fonce avec d'autant de plus conviction qu'il est totalement libre, qu'il se sent totalement libre. Et un jour, il s'en est pris à un groupe de sidérurgistes comme ça, un groupe de syndicalistes sidérurgistes. Il n'a pas hésité justement à les invectiver en patois. Tchoubé, mon fils, sma galette. C'est ce qui j'avoue. Alors, vous avez rien compris, moi non plus. Ça veut dire, paraît-il, écoute, fils, cette galette, c'est-à-dire mon fric, c'est à moi et j'en fais ce que je veux. Alors, toucher à l'argent de Albert Frère, ça relève du sacrilège. Albert Frère considère que, en effet, on ne peut rien contre lui. Et là, entre les deux, entre son capital à lui et ce qu'on voudrait lui faire céder, il y a une ligne rouge. Il ne cède pas. Le souci est de taille. Parce que quelquefois, la ligne devient floue. Pour ne pas céder, ben oui, il va s'appuyer sur l'argent, bien sûr, mais aussi, on l'a vu, sur la collusion avec les politiques. Les milliardaires, ils sont devenus tellement riches qu'ils en oublient d'où ils viennent. Et ils vont chercher à reconstruire un monde autour d'eux. Albert a vite intégré l'idée que la raison d'être de son business consiste à mettre son argent à l'abri des appétits des États, en étant néanmoins à l'affût de ce qui peut lui permettre encore de tirer bénéfice de ces mêmes États. Il a expérimenté la chose très tôt, quand il a racheté les laminoirs du Ruau, c'était ce qu'on vous disait, à Charleroi, une vieille usine de sidérurgie à bout de souffle. Il a fait financer par l'État belge, comme d'autres ont fait financer par l'État français, l'amélioration de la production de l'entreprise. Et puis, quand elle a commencé à nouveau à tourner, ben, il l'a revendue. Il l'a revendue et ce coup d'essai jouera comme une révélation pour lui, qui découvre au passage que l'État et les hommes politiques ne sont pas si mauvais, à condition de savoir s'en servir. Ah ben c'est moi qui suis enrhumée, c'est Françoise qui tousse. Oui, vous avez dû vous en apercevoir. On est un peu enrhumé, on n'a pas des jolies voix. Mais tant pis, on continue. Donc, fort de ses munitions publiques, fort de ses aides publiques, le jeune Albert s'est présenté à l'Assemblée générale de l'entreprise qu'il avait circonvenue. Et il a dit « J'achète ». Il est devenu le nouveau patron. Et une fois nouveau patron, une fois bien aidé par l'État, il a revendu. Donc en fait, la Chambre de commerce de Charleroi a validé son coup de main sur une entreprise. Comme ailleurs, les chambres de commerce françaises ont validé les coups de main sur les entreprises de la sidérurgie de l'Est. Et tous ces gens-là, ben, finalement, ils font tout d'instinct. Ils ne sont pas allés beaucoup plus loin que les humanités, par exemple. En ce qui concerne Albert Frère, il a fait l'équivalent du collège en Belgique. Bon, il y en a d'autres qui ont fait des écoles de commerce, mais quand même. Albert Frère, il avait une telle soif de gagner et de devenir toujours plus grand que rien ne lui résistait. Il n'avait pas besoin d'avoir fait des études, il avait tout compris très vite. Alors, en 1994, il est entré dans le Wuzhou. Et ensuite, son réseau d'amis s'est étendu partout dans le monde. En France, en Suisse, au Luxembourg, au Liechtenstein. Et oui, au Liechtenstein, où la Belgique comprend aussi quelques barons. Et avec d'autres amis bien situés, les Jean-Marie Messier, Jean-Luc puis Arnaud Lagardère, Bernard Arnault, Serge Dassault, Éric de Rothschild, donc Alexandre de Liechtenstein, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin... Allez, Alain Minc, Gérard Mastralet, on va le retrouver, Thierry Desmarais. Ben oui, tous ces gens-là, bien sûr, entre eux, ils sont amis. Ils sont amis et bien sûr, ils se rendent des services.
Les deux journalistes se demandent si Albert est dupe. Ils pensent que non. Il pense que lui, le vendeur de clous, aura toujours un problème avec sa nouvelle famille, cette caste d'hyper riches où il sera, quoi qu'il fasse, un ancien pauvre. Il a peu de vrais amis parmi ces gens-là. Bernard Arnault, peut-être, qu'il s'amuse à appeler « copain Bernard », son partenaire de tennis à Saint-Tropez. Le patron de LVMH est nettement plus riche que celui de GBL. Le ciel est la seule limite de Bernard, dit Albert Frère d'Arnaud, avec un brin d'admiration. Ils sont ainsi, les types comme Albert Frère. Il leur faut des modèles pour avancer. Et avancer, c'est gagner toujours plus. En tête de peloton, très loin devant tous ces milliardaires, son seul véritable ami, son alter ego, cet autre self-made man qu'il appelle tous les jours, c'est Paul Desmarais. Le milliardaire canadien est son frère des gros coups, l'ami des pétroliers texans et des traders de Wall Street. Paul Desmarais est le patron de la Power Corporation. C'est un gros gestionnaire de fonds internationaux. Le seul qu'Albert autorise à franchir à ses côtés la ligne rouge, celle qui marque son blé, son territoire. Même si Albert Frère investit dans les médias, M6, les travaux publics, Eiffage, le transport, Go Voyage, la métallurgie, Transcor Astra, la crème glacée, Belgian Ice Cream, les vignobles, la restauration, la banque, Leonardo, il aime par-dessus tout mener des raids avec son ami Paul. Et les deux hommes ont un secteur en ligne de mire, l'énergie. C'est là qu'ils pensent, à juste titre, se faire le plus de fric. Pas de circonlocution ni de pudeur entre eux. On cause fric, monnaie, black, pépette, blé. Il faut en prendre un maximum en un minimum de temps et investir. Il faut être toujours en mouvement, se jouer des frontières, des juges et des agents du fisc. Il faut monter des coûts, investir et se retirer au bon moment. Il faut gagner des millions pour gagner des milliards. Ils opèrent toujours à deux, quelquefois en partant au combat séparément, le plus souvent en utilisant la holding où ils sont à égalité de parts et majoritaires. Il s'agit de la holding Pargesa qu'il possède à 50-50.
Oui, c'est une holding suisse, évidemment, en Suisse on est tranquille.
Grâce à leur navire amiral, GBL, ils sont surtout des actionnaires prospères et des interventionnistes dans une dizaine de sociétés ou de multinationales aussi diverses que Pernod Ricard, LVMH, Total, les ciments Lafarge, le géant minier Imerys, le groupe chimique Arkema, une filiale de Total qui fait dans le gaz de schiste, ou Suez, le joyau alors endetté, mais au fort potentiel de développement. Dès leur entrée au capital de Suez, ils ont en tête de se payer le groupe, alors nationalisé Gaz de France. Une opération baptisée l'Arche de Noé, visant à loger en Suisse de précieux actifs, scellera définitivement leur union au début des années 1980. Albert la résume ainsi dans la biographie qui lui est consacrée. « Nous nous sommes bien amusés et cela a donné le départ d'une belle aventure. Il y est question, une fois encore, de l'intérêt public se mêlant aux intérêts privés. » Aux intérêts privés.
Ben oui, parce que quand même, Suez, c'est privé et c'est Suez qui va, avec Gaz de France, former Engie, qui est une compagnie privée.
Albert et Paul aiment la compagnie des puissants et savent s'entourer. Ils marchent à l'instinct, mais sont capables de préparer leurs coups longtemps à l'avance en plaçant des hommes à eux, des amis fidèles ou des collaborateurs obéissants à des places stratégiques, généralement dans des sociétés d'État. L'idée générale est d'être patient pour faire pencher la balance en leur faveur le moment venu. Le nom des Marais plane comme un mythe au Canada, où il est quasiment impossible de trouver quelqu'un susceptible d'avoir un point de vue critique sur cette famille. Ceux, et ils sont très nombreux, qui tiennent à leur carrière ont tout simplement à rester tranquilles, se taisent. Albert est devenu l'ami des présidents, des chanceliers, des oligarques et des banquiers. Il se vante de pouvoir joindre en une minute Vladimir Poutine ou Angela Merkel, Mario Draghi ou Jean-Claude Juncker. S'il y avait un championnat du meilleur représentant du capitalisme affairiste de la décennie 2000-2010, Albert Frère pourrait briguer le titre de champion d'Europe.
Eh oui. Et on nous dira dans un tout petit moment que Paul Desmarais, lui, si il peut briguer un titre de champion, c'est celui de champion du monde. Mais avant de rejoindre notre fameux champion du monde, nous allons aller quand même au Canada avec Gilles Vigneault, qui va nous dire que tout le monde est malheureux et que tout le monde y veut de l'argent.
Tout le monde est malheureux, tant pis, les hommes, tout le monde est malheureux tout le temps.
Oh oui.
Tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut de l'argent.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
L'argent pour faire ma montagne, tant pis, l'argent pour faire ma montagne, les villes, s'il y avait moyen tout le temps.
Tout le temps.
L'amour pour être heureux, tant pis, l'amour pour être heureux tout le temps.
Tout le temps,
heureux et plus malheureux, l'homme, l'homme,
tout le temps, tout le temps.
En amour avec toi, tout le temps.
monde est malheureux tout le temps, tout le monde y veut de l'argent tout le temps, et finalement, pour être un peu moins malheureux, Paul Desmarais, il veut vraiment beaucoup d'argent, et quand ça marche, il est sûrement moins malheureux. Parce que, comme on l'a vu, si Albert est champion d'Europe des grands prédateurs, Paul Desmarais, grâce à ses liens avec les néoconservateurs américains et ses 8 ou 9 milliards de fortune personnelle, il serait plutôt en bagarre pour le titre de champion du monde des grands capitalistes. Alors, penchons-nous un petit peu sur cet homme intéressant. Comme son ami Albert, Paul a démarré de presque rien. Il est né en 1927, donc à un an près, il est le jumeau de Albert Frère, outre-Atlantique, dans une grosse bourgade de l'Ontario, Sudbury. Son père y était propriétaire d'une entreprise d'autobus, Sudbury Bus Line, qui, au début des années 1950, se retrouve au bord de la faillite. Et Paul, à seulement 24 ans, se porte acquéreur de la flottille personnelle, comptant 16 bus, pour la somme symbolique de $20. Business is business. Plus rien n'arrêtera dès lors l'ambitieux jeune homme qui, tout comme Albert, aura ses anges gardiens. À commencer par Jean-Louis Levesque, un homme qui brasse de grosses affaires au Québec. Et tant qu'à avoir des protecteurs, autant qu'ils aient un compte en banque bien fourni. Par exemple, Levesque. Moi, j'avais besoin de 3,5 millions de dollars. Et il a bien voulu m'en prêter 4 millions et demi même, à des conditions de prêt toujours avantageuses. C'était bien quand même. D'acquisition en acquisition, de compagnie d'assurance en usine à confiture, Paul, il a décroché le Graal. Grâce à un super coup de poker, il a acquis le conglomérat qui le rendra célèbre, la Pyre Corporation, basée au Québec, malgré ce nom bien anglo-saxon. 2 ans plus tard, il y régnait totalement en maître. Il était devenu actionnaire majoritaire et président. Avec Power Corporation, j'ai changé de dimension et je suis allée à Paris. J'avais envie de trouver des choses à faire en France parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier ou dans le même pays d'ailleurs, si vous préférez. Je voulais être présent aux États-Unis, au Canada et puis en Europe et puis aussi en Asie. Alors en Europe, j'ai acheté 5% de Paribas par exemple. Et quand M. Mitterrand est arrivé en 1981, je me suis réorientée. Et avec Albert Frère, on a récupéré Pargesa et on s'est orienté vers Pargesa Suisse. Et c'est comme ça que nous avons logé toutes nos participations françaises à l'abri. Il se trouve que Albert Frère, que je ne connaissais pas du tout, avait aussi pris 5% dans Paribas et que donc on s'est retrouvé aux manettes de Pargesa. Et aux manettes de Pargesa, c'est comme ça que Paul et Albert partent à la conquête du monde en lançant effectivement l'Arche de Noé qui leur permettent de préparer le terrain et d'avoir accès à un certain nombre de secrets, les règles de base qu'on doit connaître quand on veut se faire bien voir des banquiers et d'un État. Peu à peu, la leçon est apprise. À la tête de leur holding, il commence par prendre des participations dans la plupart des multinationales qui comptent en Europe. Lafarge, Total, Adidas, Pernod Ricard. C'est la Power Corporation qui détient aujourd'hui des parts dans Putnam Investments, dans Panagora Asset Management et d'autres fonds basés aussi à Boston, en Chine, par exemple à Hong Kong. Alors tout au long de son ascension, Paul a pu compter sur Albert. Albert a pu compter sur Paul. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois au conseil d'administration de Paribas. Et puis, nous sommes devenus admis. D'autant que les Français, aux réunions de travail avec Paribas, ils nous appelaient le Belge et moi, le Québécois. On s'est bien entendu tout de suite. On ne s'est plus quittés. On est devenus amis, on est devenus frères en 2-3 jours. Les centres d'intérêt communs ne nous manquaient pas. L'économie, la finance et puis les petits coups, bien sûr. Avec Albert, j'ai découvert les charmes de la classe politique française. La chose publique, la chose publique, elle m'intéressait au Québec et elle s'est mise à diablement m'intéresser en France aussi. Le business, c'est comme les salades. Il faut un bon terreau, c'est-à-dire un bon marché pour s'épanouir. Alors, selon Paul, la chose est entendue. La Power Corporation, dont le siège est à Montréal, au Québec, a besoin du Canada. Mais exit l'indépendance du Québec, c'était trop petit. Et donc, sur la base de convictions qui ne sont plus québécoises, on arrive très vite au Canada dans son ensemble. Desmarais a soutenu tous les premiers ministres fédéralistes de l'histoire du Canada. Certains d'entre eux ont même travaillé pour la Power Corporation, a expliqué un avocat à nos journalistes. Il a égrené les noms de ses ministres jusqu'au dernier, jusqu'au sémillant Justin Trudeau. Eh bien oui, vous savez, c'est le fils de l'ancien premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau, que Desmarais avait largement aidé à arriver au pouvoir. Le journal indépendantiste, l'autre journal, a relayé des informations qui expliquent le rôle joué par La Presse, quotidien de poids du Québec, que Paul Desmarais avait acquis en 1967. La campagne de Pierre-Éliott Trudeau, qui était le chef du Parti libéral, avait été planifiée et orchestrée lors de rencontres hebdomadaires avec justement les directeurs de La Presse. Eh oui, c'était pas un hasard si les réunions se faisaient dans les bureaux de la Power Corporation sur la rue Saint-Jacques à Montréal. Un avocat d'affaires qui a commencé à dénoncer les histoires pas très propres, a fait de Desmarais sa bête noire. Pas étonnant que les deux hommes, Albert et Paul, se soient bien entendus. Ils apprécient, ils communiquent, ils échangent des informations. Et on s'aperçoit en effet qu'ils échangent des informations dans tous les domaines. L'avocat Richard Lehir les a même dénommés le duo d'enfer. Eh oui, il n'y a pas vraiment de distinction nette entre les deux hommes, alors que par contre, il en fait une entre les bâtisseurs et les prédateurs. Dans l'économie, les bâtisseurs seraient des amoureux de leur métier, constamment en train de raffiner leurs produits et leurs procédés en investissant dans la recherche et dans le développement, et même en traitant correctement leurs salariés. Les prédateurs, par contre, ne s'intéressent qu'à la rentabilité financière. En écumant les sociétés qu'ils achètent, ils précipitent, en fait, le capitalisme dans sa chute. Enfin, le capitalisme, non. Le capitalisme des petites entreprises, oui. Les petites entreprises qu'ils peuvent ainsi racheter, remonter et réévaluer. Le IR, ils les appellent les loups. Ah oui, on vous l'avait dit, du loup à l'ogre, de l'ogre au loup, il n'y a qu'un pas. Ultralibéralisme, ultracapitalisme, oui, c'est exactement ça. En fait, au début du livre, les auteurs nous ont dit que c'était vraiment par des coups, et même par des coups de maître, que Paul et Albert avaient construit leur fortune. Eh bien, leur coup de maître, ça va être, en effet, on vous l'a laissé supposer deux ou trois fois, le gaz. Il y a bien des pages dans le livre et il y a bien des années dans la vie pour réussir ce coup de maître. Et en effet, le coup de maître, ça a été d'abord, on ne pouvait pas s'y attendre, mais quand même, ça a été d'acheter d'abord, puis de revendre quick. Eh bien oui, vous avez bien entendu, quick, les burgers. Ils ont été investir dans cette chaîne alimentaire parce qu'elle n'allait pas très bien. Ils l'ont remontée. Ils l'ont revendu 4 fois ce qu'ils l'avaient acheté, avec l'appui justement d'une forte collusion politique. Ils l'ont revendu à la CDC. La CDC en France, la Caisse des dépôts et consignations, c'est une banque d'État. Une banque d'État donc qui rachète, on se demande vraiment pourquoi, et complètement au-dessus de la valeur, une chaîne de restaurants fast-food. Eh oui, c'est Quick, c'est l'État. C'est la CDC, tout ça c'est dans le même paquet, dans le même, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un petit feuilleton de plusieurs années qui a permis à notre Albert et à notre Paul de faire, c'est même pas la culbute, mais de multiplier par 4 le capital investi dans Quick. Et ce capital investi dans Quick, qu'est-ce qu'ils en ont fait quand ils ont revendu? Eh bien, ils ont acheté encore plus de parts dans Suez. Alors, on pourrait entrer là dans les détails de la transaction. Les lecteurs sont déjà pris de bâillement, hein. Ils vont se reporter au chapitre suivant et nous allons faire la même chose. Mais c'est vrai que le montage financier, c'est absolument incroyable. Ça grouille d'informations à la fois techniques et politiques. Ça démonte un schéma explicatif très éclairant. On remarque en y regardant de près que tout en haut de la chaîne, la Caisse des dépôts et consignations détient à 100% la CDC, une entreprise holding, qui détient à son tour à 100% l'entreprise Capital Investissement, encore une filiale par laquelle on est passé pour la vente. Et donc, c'est cette dernière filiale qui a en définitive racheté Quick. Alors, il s'agit de gérer des capitaux qui sont fournis à part égale par l'établissement public et par, en effet, des apports privés, bien sûr, puisque ce sont des petits porteurs, mais des apports de la Poste, de la Caisse d'épargne et donc de l'argent public. La CDC Capital Investissement, c'est en fait une filiale, qui réorganise de façon dissimulée l'argent public pour pouvoir l'utiliser de façon privée. Et là, l'utiliser de façon privée pour financer nos deux petits gars de l'Arche de Noé, nos deux petits gars de l'Arche de Noé, qui avaient bien investi dans Quick et qui ont revendu leur entreprise pour 4 fois ce qu'ils l'avaient acheté. Alors, dans les pages que je suis en train de tourner, il y a un certain nombre de schémas. En fouillant dans les documents remis au ministère des Finances au moment de la demande d'accréditation pour le rachat de Quick, on a trouvé un certain nombre de renseignements, un certain nombre d'informations sur la façon dont les capitaux avaient été rassemblés. En fait, comme propriétaire de Quick, nos deux sbires, là, nos deux petits actifs, ils tenaient 1,7% du capital. Mais avec la quasi-majorité des votes, ils sont arrivés à faire que les souscripteurs ont décidé avec eux d'abord l'achat, puis la vente de ce capital. Donc finalement, on est au cœur du capitalisme financier. Les milliardaires et les stars de la private equity, c'est-à-dire des placements privés dans des comptes d'État, poursuivent deux buts qui participent à leur enrichissement. Échapper à la fiscalité et bénéficier partout où c'est possible, et même quand ça n'en a pas l'air, de l'argent public. Albert Frère et Paul Desmarais sont des orfèvres en la matière. Ils savent flairer la bonne affaire. Pour la réussir, ils ont besoin d'appui dans l'appareil d'État. L'affaire Quick est un modèle du genre, et elle va nous orienter vers Suez, qui est un autre modèle du genre. Ah oui, j'aurais bien donné la parole à Françoise, mais alors après, je ne sais plus ce qu'elle va nous lire. Si, on va essayer après tout.
On va jongler. Tout au début de janvier 2007, la banque ING vire 760 millions d'euros sur le compte de Quick Restaurant SA. Concomitamment, Albert Frère et Paul Desmarais vont placer un peu plus de 800 millions d'euros dans le capital de Suez via GBL, la société qu'ils possèdent en commun. Le 4 janvier, les deux compères, déjà actionnaires de Suez, achètent les parts de la Caixa, une banque espagnole, dans Suez. GBL rafle ainsi 1,1% de plus du capital de Suez. Le 12 janvier 2007, Frère et Desmarais rachètent les parts d'Eric Knight, un investisseur américain basé à Monaco. Au total, 9,5% de Suez appartiennent alors à GBL. Suez, le géant de l'énergie, ne s'est pas encore marié à GDF. Grâce à l'argent des deux compères, le groupe est moins endetté. Avec près de 10% du capital et 14% de droits de vote, Frère et Desmarais deviennent les plus gros actionnaires du champion industriel franco-belge de l'énergie. Avec un rêve de plus-value énorme si le mariage avec GDF se fait.
Eh oui, parce que GDF, c'est ça qu'on veut. C'est vraiment le groupe du gaz en France.
On se rend ainsi compte, à suivre les investissements et désinvestissements de Frères et des Marais, que les deux milliardaires vont faire feu de tout bois en cette fin d'année 2006 et ce début 2007 pour vendre des actions un peu partout et investir leurs gains dans Suez. On se demande bien pourquoi cette envie soudaine a grimpé dans le capital de la multinationale endettée. Mais non, c'est toujours l'espoir d'avoir GDF.
GDF.
Page 111.
Et donc, on va poursuivre avec la façon dont, finalement, ils arrivent à mettre la main sur GDF.
On a souvent des difficultés à montrer comment la finance imprime nos vies et nous a servis. La vérité se niche dans les détails et les enchaînements. Albert Frère rachète la firme. Il l'introduit en Europe et permet son expansion. Il la revend 5 années plus tard avec une énorme plus-value, imposant des cadences de dingue aux salariés.
Oui, là, on était toujours à Quick.
Grâce à lui, non seulement on mange mal, mais on vit mal. Albert Frère, mauvais génie du fast-food, s'enrichit sur notre passivité. Mais le pire est ailleurs. Il ne peut réussir ce hold-up que grâce au soutien actif des États belges et français. Rien d'illégal, a priori, dans ce travail de fond. C'est le boulot de tous les bons milliardaires. Préparer leurs coups, s'appuyer sur des hommes à eux dans les appareils. Exercer de l'influence dans ce genre d'histoire, ce qui surprend et chagrine, c'est moins l'attitude du milliardaire que la faiblesse de nos réactions. Le capitalisme financier pousse à des merveilles d'absurdité. L'État ne nous a en aucun cas protégés. Pire, la Caisse et ses dirigeants ont activement participé à notre asservissement et à notre conditionnement à la malbouffe.
Donc la malbouffe d'abord, et puis donc, comme on disait, le gaz après. Finalement, c'est ce à quoi ils voulaient arriver qu'ils vont réussir sous ce qu'on a vu tout à l'heure, le gouvernement de Sarkozy. En mai 2007, un nouveau président débarque à l'Élysée. Ségolène Royal retourne en Poitou-Charentes, Jacques et Bernadette Chirac partent en retraite et en villégiature, et François Hollande ou DSK rêvent d'un prochain tour. À la soirée du Fouquet's, Albert Frère et Paul Desmarais dansent avec Alain Minc, et Bernard Arnault. Ils ont raison de danser, puisque dans quelques semaines, GDF va perdre son monopole et il se rêve en nouveau propriétaire. Albert Frère et Paul Desmarais sont déjà milliardaires, mais ils naviguent encore assez loin du peloton de tête de la liste de Forbes, vous savez, le classement international. Ils ont une fameuse galette et ils ne cherchent qu'à la croître. La première fortune de Belgique, c'est bien, mais la première fortune d'Europe, ça serait encore mieux. Monter d'un coup de 100 places dans le classement Forbes, c'est exactement ce que veut réussir Albert. Et c'est ce qu'il va réussir avec son ami Desmarais. Quand on est septuagénaire, de droite, très riche et libéral, qu'on n'aime pas particulièrement la musique ou la lecture, le cinéma ou la peinture, qu'est-ce qui peut encore vous exciter les neurones, si ce n'est gagner des milliards ? Ben vous voyez, nous, on est là, tranquille, à Marseille, dans notre radio. On s'intéresse à la lecture et au cinéma et pas à l'accumulation des milliards. Bon, vous me permettrez cette petite digression. L'Élysée et Matignon ne sont pas les seuls lieux où Frères et Desmarais vont placer des hommes de confiance. Mais ils n'empêchent. Ils savent que les rouages de l'État, c'est vraiment a place to be. Un endroit où se tenir. Et la liste est longue des hommes qu'ils ont placés. Des fonctionnaires à Bercy, à l'Assemblée, au Sénat, des amis bien sûr. Pour conclure le mariage entre Suez et GDF, pas tout à fait encore officiellement signé puisqu'il ne sera annoncé que le 3 septembre 2007 à l'hôtel Hilton Arc de Triomphe à Paris, ce sont bien plutôt les hommes placés qui ont permis la réalisation de l'épopée. Épilogue attendu d'un long parcours d'obstacles de 18 mois. Finalement, tous les réconciliés se sont congratulés et tout le monde a plastronné. À la fin, c'est toujours le roi qui gagne. Et le roi, Le roi, ben c'est Nicolas Sarkozy, bien sûr. Il l'avait rencontré en personne à l'Élysée pour parler du projet. Pour parachever tout ce joli travail, l'État a choisi le cabinet d'avocats d'Albert Frère, Gide Laurette Noël, pour rédiger et superviser la fusion. Le cabinet avait à embaucher à ce moment-là un nouvel avocat, rien que pour ce travail. Un député UMP, ancien ministre du budget, vous savez, Jean-François Copé. Ah ben oui, c'était une recrue de choix, au carnet d'adresses imposant. Comme porte-parole du gouvernement Chirac, il s'était toujours déclaré favorable à la fusion entre des GDF et Suez, la jugeant pertinente et insistant pour que GDF pouvait être soumis aux décisions du gouvernement. Autre soutien naturel d'Albert Frère et de Paul Desmarais dans cette fusion, le groupe UMP au Sénat avec à sa tête Gérard Longuet. Celui-ci a été rémunéré pendant 15 mois par Suez pour une commission de consultation sur le déploiement du nucléaire en France et à l'international, alors qu'il avait officié jusqu'en 2010 au Sénat dans un groupe chargé de réfléchir à la libéralisation de l'énergie. Bref, tous ces gens-là, ensemble, s'en sont mis plein les poches. Ben oui, ils avaient acheté des actions avant. Et les actions de Suez, quand GDF s'est marié avec Suez, même si c'était un peu le mariage de la carpe et du lapin, les actions de Engie, c'était pas vraiment des choses sur lesquelles on pouvait cracher. Alors, les actions de Engie, ils en ont plein les poches. Et vous vous souvenez, Engie, c'est un groupe privé, réalisé grâce à l'union du privé et du public, avec la bénédiction des pouvoirs de l'État. Cherchez, vous trouverez. On va trouver même, d'ici quelques secondes, une chanson de Souchon qui nous renvoie à Quick, qui avait été l'outil principal de Desmarais et Frères. Et bah oui, si on est foutu, on mange trop, ou si on mange trop, on est foutu. On espère quand même, nous, que d'ici la semaine prochaine, on va se remettre et qu'on aura de plus jolies voix pour vous lire notre prochain ouvrage. À bientôt.
Des joues creusées hautes, des guerriers roulent, tourbillon des belles danseuses rêveuses, que la révolution rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut, gringo, pistolero. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Dans la crème chantilly, les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelé poète, tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac, il tient pas la rime. L'albatros patauge dans l'ice cream. Nous la jolie, nous la beau. Tout en pâté, pâteau, par les pâtés, les gâteaux. Nous la beau, nous la jolie. En kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. 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 Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. On est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop. Papa Mambo. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros? On est foutu, on mange trop, papa mambo. On est foutu, on mange trop. Roulait des hanches en douceur, chanteur, dans son habit cœur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle a groupi, fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean, nous la jolie.